Bonjour, bienvenue à l'émission Esprit et Vie. Vous êtes sur Radio Dialogue en compagnie de l'Église luthérienne malgache de Marseille. Bonne écoute.
Le texte prévu pour ce dimanche 10 novembre, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 9, du verset 18 à 26. Et je vous recommande aussi de lire les textes parallèles qui se trouvent dans Marc, chapitre 5, les versets 22 à 43, et dans Luc, chapitre 8, les versets 41 à 56. Nous lisons donc le texte du jour au nom de Jésus-Christ. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, et viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Quand la foule lui était renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. En lisant ce texte, nous constatons d'emblée que Jésus reste auprès de ceux qui le cherchent vraiment. Il écoute ceux qui sont dans la détresse et le supplie. Il connaît le désir profond de nos cœurs. Ici, Jaïrus, le chef du synagogue, a supplié Jésus de venir en aide pour sa fille de 12 ans, car elle était mourante. Ils étaient sur le chemin quand une femme parmi la foule a touché le bord de son vêtement. Elle est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle n'osait même pas se montrer parce qu'elle se sentait impure. Mais elle s'est dite, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » C'est la force de la foi. La peur est vaincue. Elle a reçu une parole de réconfort de la part du Seigneur Jésus, qui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Prends courage. » Et sois guéri de ton mal. Une maladie de 12 ans a anéanti cette dame, mais en une fraction de seconde, elle est guérie par la parole du Seigneur. Et cette foi a été prouvée devant la foule. Le prophète Ésaïe, en parlant de Jésus, a écrit ceci, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. On dirait que cette intervention a arrêté le temps et la marche aussi, et on a oublié Jaïrus. Point du tout. La marche continue, et voici des messagers sont venus lui annoncer la mauvaise nouvelle. Que ce n'est pas la peine de déranger le Seigneur. Sa fille est morte. Jaïrus a le cœur meurtri. Il est désespéré de perdre sa fille unique. Mais à l'instant même, Jésus lui dit, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Devant les pleurs et les lamentations, Jésus a encouragé ce qui était autour. Ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Cette parole a suscité des moqueries aux yeux de ceux qui étaient chez Jairus ce moment-là, sachant que la fille était morte. Mais devant le corps de la jeune fille, une parole pleine d'autorité sort de la bouche de Jésus. Dans les autres textes, c'est Talita Kumi qui veut dire « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Il en est ainsi. Quelle joie pour ses parents et pour les trois disciples de Jésus, Pierre, Jacques et son frère Jean. Jésus est vraiment admirable. Ils furent tous dans un grand étonnement, a dit la Bible. Il est puissant, Jésus. Et la nouvelle s'est vite répandue, alors qu'il leur a recommandé de ne dire à personne. Il est vrai que dans la vie de tous les jours, nous cherchons le Seigneur seulement quand on a des difficultés, quand on passe des épreuves comme la maladie, le deuil. Sachons qu'il nous écoute. Il intervient pour guérir nos corps et notre esprit. Voyons cette femme. Elle a tout dépensé pendant des années, mais sans résultat. Avec Jésus, elle est guérie dans son corps et dans son âme, car la paix de Dieu était sur elle. Mettons toute notre confiance en Jésus. Il nous interpelle aujourd'hui en disant à chacun de nous, ne crains pas, crois seulement, ta foi t'a sauvé. Va en paix, prends courage, sois guéri de ton mal et lève-toi. À Dieu seul la gloire. Amen. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour envers nous. Tu viens toujours en aide à ceux qui te cherchent. Tu ne fais exception de personne. Veuille intervenir dans nos vies, que tu en sois vraiment le maître, afin que nous surmontions toutes les épreuves, surtout en ces temps difficiles. Tu as dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donne-nous la foi en ta parole, Seigneur, et nous soyons guéris. En ton nom, Jésus. Amen.
See you.
Voici les nouvelles des églises luthériennes malgaches de Marseille. FLM Marseille. Nous vous rappelons que le culte débute à 10h30 tous les dimanches au rue Cadmoutan dans le 14e, chapelle Sainte-Claire, précédé de l'école de dimanche à 9h30. La Sainte-Seine, le 1er et le 3e dimanche de chaque mois. Le Assas van Peyresen, le 2e et 4e dimanche de chaque mois. Et l'étude biblique tous les mardis à 20h au rue Cadmoutan dans le 14e, chapelle Sainte-Claire. Pour plus d'informations, consultez notre site au www.flmmarseille.fr. Pour FLM Mazarque, au 8 boulevard Magnan, 13 09 009, EPU Marseille Sud, tous les dimanches à partir de 17h, précédé de l'école de dimanche à 16h. Écoutez Azamana Mafi Funo de Trompette Ni Falantenan.
Madagascar aujourd'hui sur Radio Dialogue 89.6 et 101.9 FM ou sur internet radiodialogue.fr.
Vous venez d'entendre l'émission Esprit et Vie présentée par Mavsou et Miran, et le texte était de l'évangile de Matthieu, chapitre 9, et le verset 18 au verset 26. Et on relit les versets 24 et 25, au nom de Jésus. Il leur dit : Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Amen.
Felice tini yao mama sara sara tiambaka Ono taini tumbu Nisaura nani tumbu familiai Nisiai natikaka Miyao na yitindai.
Une petite rectification, c'est le catéchiste bénédictine qui a fait la prédication. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Dialogue 89.6 FM, la radio chrétienne de Marseille. Vous êtes aujourd'hui dans l'émission Madagascar aujourd'hui. Et au programme, il y aura les communiqués et nouvelles des églises, ainsi que les informations en provenance de Madagascar. Restez avec nous, je passe la parole à Mafto.
Oui, en effet, nous avons une invitation de la part de l'église luthérienne malgache de Mazargues. Alors, l'église luthérienne malgache de Mazargues vous invite à sa fête annuelle qui aura lieu à l'EPUF 8 boulevard Magnan, 1309 Marseille, le 16 novembre, donc c'est ce samedi prochain, 16 novembre, à partir de 18h. Au programme, il y aura des chants de louanges et le partage d'un repas malgache. Il nous invite à cette fête annuelle et souhaite votre venue très nombreux. À souligner, le thème central est tiré du deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 8a, que je lis au nom de Jésus. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes sortes de choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Amen. 18h45 sur Radio Dialogue dans l'émission Madagascar aujourd'hui. Nous sommes au temps des informations en provenance de Madagascar en compagnie de Mirana. Alors tout de suite, la page politique, scrutin présidentiel.
Les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 25 octobre ont été rendus publics et remis à la Cour électorale spéciale vendredi dernier. Pour la première fois en 50 années d'indépendance, une élection n'a pas été organisée par le ministère de l'Intérieur, mais par un organisme neutre et indépendant. Pour les résultats de ce premier tour, Jean-Louis Robinson et Erazon Armampian figurent en tête avec respectivement 21,10% et 15,92% des voix. Le face-à-face aura donc vraisemblablement lieu entre les deux candidats le 20 décembre prochain. À la troisième place vient Adjianenarville, 10,52, suivi de Ronlaratiraka, 9%. Ce sont les résultats de 19 931 bureaux de vote sur les 20 001. Selon la CENIT, les résultats de 60 bureaux de vote sont entachés d'anomalies, dont des carences dans les procès-verbaux, mais il revient à la Cour électorale spéciale de décider de leur sort. La CENIT a fait savoir ce jeudi 7 novembre qu'elle a déjà donné des instructions à tous ses démembrements pour faire en sorte que tous les agents électoraux distribuent dans les plus brefs délais les cartes électorales qui sont encore dans les fouctanes pour qu'elles soient remises à leurs propriétaires. Cela pour améliorer le scrutin du second tour et des législatives qui se dérouleront le 20 décembre prochain.
Page économie, projet de loi des finances 2014.
Le Congrès de transition a examiné en séance plénière le projet de loi de finances 2014. Selon les membres de la commission finances de cette institution, on peut en relever les grandes lignes. Le budget national est fixé à 3100 milliards ariary. Parmi les grands changements dans ce budget figure la réduction de 10% contre 20% du taux de la taxe d'importation pour les matières premières, telles celles destinées à fabriquer le savon. La prévision de taux de croissance a été augmentée à 3% contre 2,8% pour l'année finissante. D'une manière générale, selon le président de la commission finances, la tendance à l'austérité est maintenue tout en donnant toute latitude aux prochains gouvernants de gérer convenablement les affaires courantes et de prendre des initiatives. Cependant, les ministères sociaux et les ministères de l'agriculture et de l'élevage ont vu leur budget augmenter, sinon maintenu, au niveau de celui de l'année 2013. Le budget 2014 a connu une réduction entre 27 et 50% selon les secteurs par rapport au précédent budget. Le budget affecté au congrès de transition a par exemple diminué de 21 milliards ariars à 10 milliards ariars pour 2014. Le nombre réduit des futurs membres de l'Assemblée nationale y est pour quelque chose dans cette décision de réduction.
Culture à présent, Maggie Blanchard et TGC ensemble pour un savoureux instant musical et spirituel.
Oui, une vague, une rencontre qui promet des moments de communion intense. La chanteuse canadienne Maggie Blanchard est à Madagascar depuis une semaine. Elle donnera deux concerts, le 12 novembre au Carlton Anus et le 17 novembre au Palais des Sports Mahamasn. Pour ce deuxième passage au pays, à l'initiative de l'United Production, qui regroupe des jeunes leaders et entrepreneurs chrétiens, elle sera accompagnée du Tana Gospel Choir de Fid Rabearsou. Du côté de TGC, cette opportunité tombe à pic, d'autant plus que le groupe est en plein dans la célébration de son 10e anniversaire. La sollicitation de l'artiste international a été reçue favorablement donc, et avec beaucoup d'enthousiasme. Une première rencontre en avril a permis d'initier ce projet et de le mettre en œuvre.
Page sociale, santé, les séquelles de la polio qui sont maintenant opérables, semble-t-il.
Les personnes paralysées par la polio pourront se déplacer sans aide. L'opération des séquelles est désormais possible et faisable au HIRA. L'inauguration du centre polio a eu lieu vendredi et désormais, celui-ci prendra en charge toutes les personnes nécessitant une opération de leurs séquelles. L'avis de recrutement a été annoncé en août et depuis le mois de septembre, de la chirurgie s'est effectuée au centre d'appareillage de Madagascar à Befelatanan. Les responsables rassurent que les handicapés de la polio ne devraient pas s'inquiéter au sujet de la somme d'argent à payer. Au contraire, ce sont les membres qui chercheront les patients à opérer.
Juste à signaler que l'HGRA, c'est l'hôpital général Ravoingadjanaval. Et enfin, nous terminons avec un fait divers. Immigration clandestine, 29 ouvrières interpellées à Mahadzing.
Oui, une nouvelle vague d'immigration clandestine d'ouvrières malgaches a tourné court. Jeudi après-midi, elles étaient 29 à avoir été interpellées au port de Mahadzing. Démasquée à Anjouan par les autorités comoriennes mardi, alors qu'elle s'apprêtait à s'envoler pour l'Arabie Saoudite, 18 de ces jeunes femmes ont été refoulées d'Ardar. Leurs passeports ont été d'emblée confisqués par la police chargée de la surveillance du territoire, qui a travaillé de concert avec la police judiciaire à leur embarquement au port de Mahadzing jeudi. En revanche, les 11 autres ouvrières allaient partir en croisade pour l'Arabie Saoudite vendredi lorsqu'elles se sont fait cueillir la veille. De sources de la police judiciaire de Mangareef, elles allaient partir en croisière pour les Comores lorsque la police a découvert le poteau rose. Ces 29 ouvrières avaient toutes quitté Tananarive. Après le gel de l'envoi d'ouvrières malgaches à l'étranger, décidé en conseil du gouvernement le 31 juillet, des mesures draconiennes ont donc été appliquées par la police de l'air et des frontières dans les aéroports pour débusquer toute tentative.
Yeah.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Dialogue, la radio chrétienne de Marseille. Nous vous rappelons le mail pour envoyer les suggestions pour améliorer l'émission et dédicacer des chansons. Donc c'est madadialogue@yahoo.fr. Restez à l'écoute, nous allons enchaîner tout de suite avec un dossier très intéressant. La Bible est-elle encore d'actualité ?
Fantaro fama Sati. Mitese na waniu desi kia radi.
Mahane usia nambara. Hamafisi isara. Hampanzaka chani jahi.
Wapinya entinau Andresena nyadi saruta
Fitiavana diritukana siva uva Hana chala nalai danzuna fauya Hanga
paifadali tanana ituri fia
de ce soir, la Bible est-elle encore d'actualité? Présentée par Mafsou.
Sabacha
Nous sommes dans le temps des prix littéraires hein, et récemment ont été remis le prix Goncourt, le prix Renaudot. La Bible est-elle encore d'actualité? Est-ce qu'elle mériterait un prix? Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. La Bible est un best-seller. Savez-vous que la Bible est le best-seller, autrement dit, le livre le plus vendu au monde, des millions d'exemplaires chaque année? Et la Bible est traduite dans plus de 450 langues et tous ceux qui la lisent ne sont pas forcément croyants, pour dire que la Bible a façonné pour une large part notre civilisation. La Bible est une véritable bibliothèque. Elle appartient au patrimoine de toute l'humanité et elle est à la base de la foi chrétienne. Elle est aussi porteuse des valeurs de justice, de liberté et de fraternité. Le mot grec « biblos » signifie « livre ». La Bible, c'est toute une bibliothèque de 73 livres, écrits surtout en hébreu et en grec au cours de plusieurs siècles. Et la Bible est divisée en deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ou livre de la première alliance entre Dieu et les hommes, retrace la découverte de la foi du peuple hébreu et il comporte 46 livres. Le Nouveau Testament, ou livre de la deuxième alliance, nous livre le message apporté à l'humanité par Jésus-Christ. Il comprend 27 livres, c'est-à-dire les quatre évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, les actes des apôtres, et les lettres ou épîtres des apôtres pour différentes églises et communautés, et enfin l'Apocalypse. La Bible est le livre religieux des Juifs et des chrétiens, mais les musulmans en connaissent beaucoup de passages par l'intermédiaire du Coran. Les croyants reconnaissent que la Bible est la parole de Dieu. Elle nous présente également la littérature juive et chrétienne pendant plus de 1000 ans. On devine vite que cela en fait la richesse, mais aussi la difficulté. Alors, comment est écrite la Bible? La Bible a été composée au cours de 15 siècles par des dizaines d'auteurs connus ou anonymes, et c'est une somme d'expériences spirituelles qui intéresse tous les hommes. Chacun des auteurs a écrit dans sa langue, avec la culture de son temps, avec ses talents littéraires brillants ou médiocres, sa science et son ignorance. La manière dont la Bible s'est constituée progressivement en l'espace de plus de 40 générations pour devenir le livre que nous possédons aujourd'hui est un véritable miracle. En effet, sans plan ou projet préétabli du point de vue humain, ces parties s'ajoutèrent les unes aux autres au fil des siècles jusqu'à ce que la Bible soit complète, comme nous la connaissons à l'heure actuelle. La Bible raconte aussi l'histoire du peuple d'Israël de façon plus théologique qu'historique. Elle donne un sens aux événements toujours au-delà de ce que les personnes ont pu voir et entendre. Elle donne donc à voir et à connaître. Chaque récit est marqué par l'époque, la langue, la culture de son ou de ses auteurs, et on trouve donc une grande diversité de textes et de styles. Malgré tout, on retrouve une unité intrinsèque. Or, on peut se poser la question, comment est-il possible que des auteurs aussi nombreux, issus de tant de générations, de cultures et d'horizons divers, et pour la plupart sans moyen de communication entre eux, aient pu écrire en parfaite harmonie une œuvre si parfaitement homogène, alors que les sujets traités sont de ceux qui soulèvent généralement des batailles d'opinion, le cosmos, la nature, la philosophie, qui est Dieu, qui est l'homme, quelle relation peut-il y avoir entre eux ? Mais encore une autre question, comment la Bible est-elle parvenue jusqu'à nous ? Nous ne savons pas exactement à partir de quelle date la Bible a été mise par écrit. À l'origine, elle était transmise oralement. Les Juifs ont fixé à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ la liste officielle des livres saints et ont veillé avec minutie à les transmettre. Et les transmettre en fait de copie en copie sur des rouleaux de parchemin. Les copies les plus anciennes que nous possédons remontaient au 8e siècle après Jésus-Christ jusqu'à l'étonnante et récente découverte de Qumran. En effet, à partir de 1947, dans les grottes surplombant le monastère de Qumran, près de la mer Morte, on a découvert des fragments des premiers livres de la Bible. Et même des exemplaires presque intacts, dont un manuscrit complet d'Ésaïe. Ces manuscrits ont été datés des 1er et 2e siècles avant Jésus-Christ. Et la comparaison des manuscrits de Qumran avec les copies du 9e siècle après Jésus-Christ a montré l'étonnante fidélité de la transmission du texte hébreu. Et dire que pendant plus de 1400 ans, le Nouveau Testament fut copié à la main et la première édition fut réalisée vers 1455 par Gutenberg, pour dire. Alors voilà, étonnant livre. Nous allons poursuivre tout de suite après avoir écouté une chanson.
Na fi ando wana yekusu dosi leviti kusi numeri doto numia zusu apitsa guta samela panjaka tantara yezera yetemia este azuba salamu buabulana pitu iteni Tunkiani Salomona, Isaia Jeremia, Fitumaniana. Ezekiela, Daniela, Usea, Zuela, Musa, Ubadia, Juna, Mikana, Uma, Habakuka, Zefania. Agai Zakaria, Malakila, Kitesta, Metatalua. Agai Zakaria, Malakila, Kitesta, Metatalua. Matiu, Marikaliuka, Zona, Asana Apostoli, Humana, Puruntiana, Kalatia, Tesiana. Filipiana, Kulunciana, Tesaloniana. Timothy Titus, Philemona, Yebo Jacoba, Petera, Zona Voluan, Judah, Apocalypse, Nafana Marana.
La Bible est un ouvrage pour aujourd'hui. Elle n'appartient pas seulement aux chrétiens, car elle est un trésor pour toute l'humanité. Pour l'historien, la Bible est un ensemble de précieux documents. Aux yeux du poète, elle révèle quelques-uns des chefs-d'œuvre de la littérature universelle, comme Ésaïe, le livre de Job, la Genèse, certains psaumes. Donc, plusieurs approches et lectures de la Bible sont donc possibles. On peut la lire, par exemple, comme de belles histoires que nous pourrions lire aux enfants, par exemple l'Arche de Noé, Jonas et la baleine, mais aussi comme un témoignage sur une époque et une culture. Me vient en esprit l'histoire d'Abraham qui sacrifie son fils. Mais la Bible peut être aussi un recueil de textes poétiques. Nous pouvons se référer au Cantique des Cantiques. Mais bien sûr, pour le croyant, s'ajoute une dimension religieuse. Il est certain qu'on ne lit pas de la même façon une liasse de lettres ou des archives de famille selon qu'on est le destinataire de ces lettres, l'héritier de cette famille ou bien un étranger. Certes, tout homme, même s'il ne partage pas la foi judéo-chrétienne, peut aborder la Bible comme un des trésors de l'humanité. Mais pour le chrétien, la Bible est tout autre chose. Elle n'est pas simplement un ensemble d'écrits où des hommes expriment leur expérience religieuse. Elle est communication de Dieu aux hommes à travers de ses divers écrivains humains, mais elle est la parole de Dieu. C'est dire que le chrétien ne lira pas la Bible comme le ferait un historien ou un ethnologue incroyant. Il l'accueille comme un message personnel qui doit éclairer sa foi et sa vie. Une lecture intelligente de ces textes nous amènerait à entrer dans leur signification profonde, mais pour cela il faut surtout éviter deux écueils, c'est-à-dire la première, considérer que tout n'est qu'invention, mythe ou légende, ou bien prendre au pied de la lettre les moindres mots. Alors, la Bible, est-ce une vérité scientifique ou une vérité qui fait vivre ? La vérité scientifique est de l'ordre du savoir, alors que dans la Bible, la vérité n'est pas un objet du savoir, mais c'est une personne à rencontrer. Les auteurs bibliques n'avaient pas pour objectif de dire une vérité scientifique, ni historique, biologique ou autre. Leur but est tout autre. C'est qu'ils parlaient de leur expérience d'un Dieu qui se révélait dans leur vie, qui marchait avec eux et qui transformait leur manière de voir le monde. Dans la Bible, l'homme peut découvrir que Dieu est à chercher dans sa propre histoire. Dieu n'est pas un concept, il est. Et il sera toujours plus grand que ce qu'une seule personne ou bien que l'intelligence humaine peut en dire. Voilà pourquoi la Bible est faite d'une multitude d'histoires. L'histoire, les auteurs de la Bible témoignent donc d'abord de la présence de Dieu dans leur vie. Qu'en est-il alors de la vérité que la Bible transmet ? Il faut dire qu'on ne peut pas la saisir de manière immédiate, car les mots de l'Écriture, des Écritures, ne sont pas en eux-mêmes la parole de Dieu. Chaque mot n'est pas forcément en eux-mêmes la parole de Dieu. Mais la Bible contient des mots humains que Dieu a inspirés à ses rédacteurs par son Esprit Saint, alors que la parole de Dieu est une réalité vivante, efficace, éternelle, toute puissante et créatrice. Nous pouvons lire ou justifier ce que je viens de dire en regardant dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, du verset 12 à 13, et aussi dans Ésaïe, chapitre 40, verset 8, et aussi dans le livre des Sagesses, verset 8, non, chapitre 18, verset 15, et enfin dans Genèse, chapitre 1, verset 3. Le Nouveau Testament fait découvrir que cette parole est le Fils même de Dieu, qui était au commencement auprès de Dieu et qui s'est fait homme. Voir dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 et suivant. La parole de Dieu excède donc infiniment le livre des Écritures. Sa vérité ne peut être saisie en quelques mots. Elle est toujours plus grande. C'est surtout ce qu'il faut souligner. La parole de Dieu excède infiniment le livre des Écritures. Il faut donc un travail d'interprétation pour faire émerger la parole de Dieu des mots de l'Écriture. Il s'agit d'abord de comprendre ce que le texte dit objectivement, ce que signifient les mots qu'il contient, puis de faire ressortir ce qu'il dit à moi, d'abord à nous et aujourd'hui, pour que les textes acquièrent un sens vital pour chaque lecteur. Donc ça souligne bien ce qui a été dit précédemment, que on ne peut pas saisir la vérité des Écritures de manière immédiate, mais il faut une réflexion pour chaque mot, pour chaque texte, le mettre dans le contexte pour qu'il prenne un sens vital pour chaque lecteur. Et cette opération n'est pas simplement technique, mais elle se produit dans le Saint-Esprit. Elle exige la foi et un contexte de prière. En effet, c'est le même Esprit de Dieu qui a inspiré les rédacteurs du texte biblique, et c'est celui-là même, cet Esprit-là, qui illumine aussi la compréhension des lecteurs. La Bible n'est donc pas seulement un livre qui contient des idées et des conceptions sur Dieu, mais un message toujours nouveau qui transmet la parole vivante que Dieu même veut adresser à ceux qui se confient en lui. Pour conclure, je dirais que la Bible est un livre extraordinaire de par son origine, de par son unité intrinsèque, comme nous l'avons déjà présenté tout à l'heure, sa diffusion sur plusieurs décennies et plusieurs siècles même, sa transmission et le fait que la Bible a été conservée malgré les tentatives de destruction à plusieurs périodes, et enfin et surtout son actualité. Comment un livre écrit il y a si longtemps peut-il être toujours actuel ? Pourquoi la science, avec ses développements récents, n'a-t-elle pas encore contredite, ne l'a pas encore contredite ? D'abord parce que la Bible est un livre moral et que les valeurs morales ne vieillissent pas. Ensuite, il est heureux de constater que les informations fournies par la Bible ne sont pas en opposition avec les faits prouvés par les sciences modernes et en particulier par l'archéologie. Nous citerons simplement que le célèbre astronome anglais John Henschel dira « Il semble que toutes les découvertes humaines n'aient été faites que dans le seul but de confirmer de manière toujours plus forte les vérités contenues dans la Bible ». Et enfin, et surtout, plus qu'un livre de morale, la Bible est la parole de Dieu. Il est dit dans l'épître, le premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 25, « La parole du Seigneur demeure éternellement ». Et donc, il est toujours actuel. La Bible reste donc tout à fait actuelle. Pouvait-il en être autrement ? Est-ce que celui qui a créé l'univers et qui a inspiré la Bible pouvait-il se contredire lui-même ? Eh bien, je pense, vous serez d'accord avec moi, non. Ces deux révélations de Dieu, la création et la parole de Dieu lui-même, se soutiennent mutuellement. Voilà. Et enfin, pour terminer, je voudrais vous conter une petite histoire, celle d'une marchande de fruits qui était assise à l'entrée d'un pont derrière son étal. Alors, quand elle n'avait pas de clients, elle utilisait son temps à lire la Bible. Alors, quelqu'un lui demandait quel livre lisez-vous ? C'était quelqu'un qu'elle venait de servir. C'est la Bible, monsieur, la parole de Dieu. Qui vous a raconté que la Bible est la parole de Dieu ? Ah, Dieu lui-même ! Ah, vraiment ? Dieu vous a parlé ? La vendeuse fut un peu embarrassée, puis levant les yeux, elle montra le soleil éclatant et dit : Monsieur, pouvez-vous me prouver que c'est le soleil ? « Vous le prouvez, mais vous voyez bien qu'il me donne la lumière et la chaleur. »« C'est exactement cela, » s'écria la femme. « La preuve que la Bible est véritablement la parole de Dieu, c'est qu'elle me donne à mon cœur lumière et chaleur.
Il est 19h27, ainsi se termine notre émission. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Au micro,
Mavsou,
Mirana et à la technique, notre ami Florent.
Enfin, je voulais faire un grand coucou à nos amis et familles de Madagascar qui nous écoutent sur internet www.radiodialogue.fr. Au revoir.
Au revoir. Hello.
Bonne semaine à tous.
Sous-titrage Société Radio-Canada.